Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir à 21h sur Radio Campus Paris.
Peut-être écoutez-vous cette émission sur votre téléphone. Pourtant, il fut un temps assez lointain où, passé le moindre coup de fil, vous mettez en contact avec des opérateurs et surtout des opératrices, plus ou moins original. C'est entre autres ce dont nous parlerons ce soir avec notre invitée. Odile Blanchet, bonsoir.
Bonsoir.
Commençons par le commencement. Tu es comédienne de théâtre, également autrice et metteuse en scène. Tu viens de terminer les représentations d'une pièce dont nous allons longuement parler, qui s'appelle La Ligne Rose, qui a été écrite, si je ne dis pas de bêtises, à six mains.
Oui.
Avec tes deux consoeurs dont nous allons parler. Et avant ça, nous allons revenir sur tes projets avant cela, après cela, pendant cela, puisque tu as également quelques années de théâtre derrière toi. Donc, tout d'abord, comment as-tu, enfin, quelle place avait le théâtre dans ta vie ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours eu une certaine place ? J'ai lu dans une interview que tu avais donnée où tu disais que tu avais commencé comme biologiste. C'est bien ça ?
Alors, par rapport au théâtre, j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune. J'ai fait de l'improvisation quand j'étais au collège. Et puis, en fait, très vite, j'ai évité d'en parler dans ma famille parce que je viens d'une famille très normale pour qui le théâtre ne faisait pas partie des carrières possibles. Donc, j'ai gardé ça pour moi et j'ai suivi les grandes lignes qui m'ont été imposées par l'école, on va dire, sachant que j'ai été en échec scolaire toute ma vie jusqu'à ce que je découvre la biologie. Ce qui m'a permis de m'en sortir et avec le soutien de mes parents, on a réussi à trouver une filière qui me convenait. Donc c'est pour ça que j'ai poursuivi la biologie, j'ai un DUT en France, okay. Et j'ai eu l'équivalent d'une licence au Canada parce que j'ai fini mes études là-bas et j'ai travaillé comme biologiste à l'Aquarium de Québec. Le théâtre, et donc c'était un peu dans ma tête à moi caché, mais ça a été toujours là, j'ai toujours voulu faire ça. Et en fait, plus j'avançais dans la vie, plus je me disais « Oh là là, je perds du temps, j'ai envie, j'ai tellement envie de faire ça ». Et puis, j'ai commencé à en reparler dans la vingtaine à mes parents. Et mes parents m'ont dit, écoute, finis tes études et on t'aidera dès que tu auras terminé. J'ai terminé mes études au Canada. Et puis moi-même, je me suis dit, c'est dommage, autant aller jusqu'au bout, essayer de chercher un travail. Vraiment, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant un an et demi et je suis tombée très proche de la dépression. Donc, j'ai convenu que c'était pour moi terminé. Je me suis dit, je suis allée au bout du bout. Et je suis partie à Vancouver prendre des cours de théâtre en anglais, parce que c'était vraiment mon objectif à la base, c'était de jouer en anglais. Et puis ensuite, je suis rentrée en France parce que mon visa s'est terminé, et donc j'ai commencé les cours de Jean-Laurent Cochet. Mmh. Je suis tombée vraiment dans le théâtre très spécifiquement, parce qu'en France, c'est beaucoup plus, je trouve, dissocié les deux,
okay, d'accord.
Comparé aux Amériques, mmh. au Canada et aux États-Unis. Donc j'ai poursuivi des études théâtrales et j'ai commencé à jouer assez rapidement.
Et alors oui, justement, tu disais que tu étais parti au Canada, donc tu étais à Vancouver, tu as suivi, il me semble, les cours de Deborah Podowski,
j'espère que je le prononce
bien, au sein de l'Austin & Tuck Studio. Alors tu disais, pour toi, c'était une envie, peut-être même une nécessité de jouer en anglais. À quel moment, finalement, tout d'abord, comment s'est déroulé cet apprentissage et finalement, comment ça s'était imposé à toi ? Parce que tu disais que la pratique du théâtre était quelque chose que tu faisais, mais de façon pas professionnelle. Mm-hmm. Donc, il y avait ce déclic-là, peut-être. Et le déclic supplémentaire de jouer dans une langue qui n'est pas ta langue.
En fait, je viens d'une famille dont la culture est très américaine, à vrai dire. Je n'ai pas du tout grandi avec des films et des séries françaises, d'accord. Mais vraiment avec des films et des séries et de la musique américaine. Donc, c'était, en fait, je crois que c'est pour ça que vraiment, à la base, pour moi, je visais ça. Mm. Et l'anglais,
même sans trop
j'adore
poser
ça.
La question.
Non, en fait, vraiment, c'est horrible, mais la culture française n'a pas du tout fait partie de ma vie jusqu'à ce que je sois dans les cours de Jean-Laurent Cochet,
okay.
Qui, lui, m'a vraiment ranimée à tout ce que j'avais loupé en France et dans notre culture à nous. Mais j'adore l'anglais, j'aime beaucoup pouvoir... c'est d'ailleurs pour ça que dans la pièce, je me suis permise de placer plein d'accents et plein de langues différentes. Ce que j'aimerais, c'est vraiment un rêve que j'ai d'être multilingue, d'être capable d'être complètement polyglotte et de parler plein de langues. Et l'anglais, c'est une langue que j'adore. Je trouve qu'en plus, elle nous permet des émotions. Chaque langue a un peu ses spécificités qui font qu'on ne joue pas de la même manière, bien on ne joue sûr. Pas les mêmes choses et on devient quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est ça aussi que j'ai cherché. Et ça m'a permis de me redécouvrir, ça m'a permis de vu que j'avais été quand même très proche, comme je le disais, de choses un peu dark, quand je suis arrivée à Vancouver et que j'ai intégré ces cours, ça m'a donné une nouvelle bouffée. Je me suis renouvelée. Il y a des gens qui m'ont connue avant et après et qui m'ont vraiment dit, on a l'impression d'avoir vu une fleur s'ouvrir. Ça a complètement changé ma vie. C'était vraiment incroyable. Ouais, exactement.
Et oui, en fait, par rapport à ce que tu disais, finalement, quand tu as débuté, tu n'avais pas cette barrière de la langue que tu aurais pu voir comme un handicap.
Pas du tout. Moi, c'était vraiment complètement naturel. Je ne me suis pas posé de questions. Je me suis juste améliorée, en fait, au fur et à mesure du cours. Mais au tout début, mon anglais ne devait pas être si top que ça. Mais je me disais, non, ça va, je comprends.
Et justement, cet apprentissage au sein de ce studio, ça s'est déroulé comment? C'est-à-dire que vous étiez dans des grandes classes, c'était des workshops, comme on dit là-bas, et ici aussi, mais comment ça se déroulait? Parce que tu pointais les différences qu'il peut y avoir.
Tellement différent. C'est vraiment, là-bas, ils fonctionnent en petits groupes, qui sont des cocons, dans lesquels on peut vraiment travailler beaucoup de choses sans égo. Ça faisait partie des mantras de ma coach, c'était on laisse l'ego dehors. On rentrait dans une pièce qui était assez petite, qui était une salle de travail avec on était tous c'était vraiment très familial et très petit, et on avait une scène sur laquelle on travaillait beaucoup de c'était pas de l'acting de théâtre genre face publique, il faut projeter la voix et tout, c'était vraiment petit, très interne, il fallait aller chercher des émotions assez pures et raw. Et donc, on travaillait sur les mouvements, sur le texte, la découpe du texte, les émotions, comment les placer, vraiment le chemin du personnage. Et ce que j'ai acquis là-bas, c'est incroyable et ça me sert encore énormément aujourd'hui. Et je continue par Zoom des sessions de coaching avec elle, tellement je trouve qu'elle est incroyable comme professeur.
Et justement, l'approche qui était privilégiée, celle sur laquelle tu viens de détailler, est-ce que ça se rapproche de la méthode Actor Studio, de la méthode Stanislavski, qui est également assez plébiscitée là-bas?
Oui, je pense que oui. De ce que j'en ai
lu,
en tout cas,
parce que c'est l'idée d'aller chercher en soi
Après, par exemple, elle, y a un côté où effectivement, elle dit faut éviter le « il faut que je pleure, je vais penser à ma grand-mère qui est morte » et y penser, parce que ces choses-là s'épuisent. Mm-hmm. C'est des fils que tu tiens une fois pour une représentation, puis après, ça se tarit. Donc, c'est de chercher le chemin pour sortir de ça, mais être capable de l'utiliser. La construction du personnage, effectivement, moi, j'écrivais beaucoup des lettres. Mes personnages écrivaient des lettres aux autres personnages qui étaient dans la scène ou... par exemple, une des scènes qui m'a énormément marquée, c'est tirée d'un film qui s'appelle Rabbit Hole, qui est à la base une pièce, il me semble.
C'est avec Nicole Kidman.
Tout à fait. Et donc, ils perdent un enfant. Et j'avais jamais expérimenté ça de ma vie. Évidemment, j'ai pas perdu d'enfant. Et j'ai dû créer un enfant. J'ai créé l'image d'un enfant que j'ai tué. Et vraiment, tout le chemin, le travail que j'ai fait et tout ce que j'ai pu me permettre de travailler autour du personnage, ça a été d'une telle richesse, et vraiment ce que ça a donné sur le travail de la scène était incroyable. Et je me suis rendu compte de la puissance de l'imagination, de la puissance du jeu et de là où on pouvait se permettre d'aller et ce que ça rendait. Et ma prof, j'avais en plus été vraiment, elle avait adoré ce que j'avais fait et ça m'avait beaucoup conforté dans ce travail.
Finalement, ce que tu dis, c'est l'idée de, par le biais de la création et de la créativité, de puiser en toi cette sincérité plutôt que de... Et de s'éloigner davantage de petits... en anglais, justement, on dirait des tricks qui peuvent s'épuiser, comme tu dis, et paraître artificiels à terme. Surtout dans un exercice comme le théâtre, ou contrairement au cinéma, c'est un exercice qui peut, en tout cas, être par essence répétitif.
Oui, complètement. Et justement, moi, je me rends compte là, avec La Ligne Rose, encore plus, parce que c'est la première que je joue si longtemps, que... Moi, j'ai vraiment besoin de chaque fois me remettre en danger, d'aller chercher des nouvelles intentions, d'être toujours... Je considère qu'il y a la ligne directrice de mon personnage qui reste là, elle est stable.
Inamovible.
Je sais où je vais. Mais il y a comme le spectre autour. Il y a du haut, il y a du bas. Et je peux me permettre, chaque jour, il le faut pour moi, ça m'est vital, d'aller chercher, OK, si je vais en haut à ce moment-là, quel impact ça va avoir sur la scène d'après? Quelle est la limite du haut? Quelle est la limite du bas? Où est-ce qu'il ne faut pas que je dépasse pour ne pas sortir du contexte, du personnage, de sa vérité? Mais je me permets de chercher encore et de travailler. Et du coup, ça rend mon travail chaque soir vraiment passionnant.
pour toi, c'est un petit peu le prix à payer, ou en tout cas, c'est nécessaire justement pour ne pas faire toujours la même chose et toi-même t'épuiser du personnage.
Ouais, complètement. Mais c'est vraiment ma vérité à moi, et je pense qu'on n'a pas tous la même méthode, ne serait-ce qu'avec les filles avec qui je joue.
Qui ont des parcours très différents.
Oui,
du
complètement.
Tien,
dans le travail, vraiment, par exemple, Bérénice, c'est quelqu'un qui, au contraire, respecte. Elle essaye de respecter chaque soir la musique qui a été fixée et de s'y tenir. Et dedans, elle trouve sa liberté, mais parce qu'elle devient très solide.
Ouais.
Et ce que je comprends complètement, et moi, j'aimerais être comme ça, mais je n'y arrive pas. J'ai une méthode différente et j'apprivoise cette méthode. Et je me dis, OK, bon, moi, je suis comme ça, il faut que je l'accepte. Comment maintenant réussir à tenir et à toujours trouver comment m'amuser, comment changer? Mais sans les mettre en défaut, en tout cas.
Bien sûr, mais oui, d'autant que c'est un exercice collectif. Mais ouais. tu parles de musique, mais c'est intéressant parce que ce que tu viens de dire, ce que tu viens de décrire, quand tu dis les hauts et les bas, finalement, c'est un exercice qui pourrait presque, au moins dans l'esprit, se rapprocher du jazz avec des improvisations. Alors là, quand on parle d'improvisation, c'est pas, puisque le texte, surtout quand tu joues face à des partenaires, tu peux pas te permettre de changer le texte. Mais toi, c'est ça aussi qui t'est nécessaire, de passer par les différentes émotions et les différentes facettes du personnage.
Ouais, complètement. Et je pense qu'il y en a qui, au fur et à mesure, se solidifie, où je me dis, OK, là, maintenant, je sais vraiment sur cette scène là où je vais. Mais je trouve qu'il y a tellement de choses il y a tellement de choses qui sont différentes, ne serait-ce que à un moment donné, dans la pièce, je suis toute seule à un moment donné, j'ai une conversation en allemand. Dans cette conversation, si je change le timing à un moment donné, en fait, j'étudie l'impact que ça a sur les gens. Si je change le timing un tout petit peu plus, qu'est-ce que ça fait? OK, si je le rétrécis, qu'est-ce que ça fait? OK, là, c'est bon, ça a fait ça. D'accord, maintenant, j'avance sur... Et en fait, ça devient du micro-détail de... En fait, il y a tellement de possibilités. C'est énorme ce qu'on peut... Tout ce qui peut être changé, mais qui sont des détails que les gens ne verront pas, ne sentiront pas, quoi.
Ouais, parfois indicible. Et même
ça sortira pas de la ligne.
Tu parlais de la question du timing, et je pense... alors vous, d'autant que c'est ce que tu disais, la ligne rose, c'est une pièce comique. Et si on prend les grands auteurs comiques, je pense à des gens comme Fedot, des choses comme ça, même sur des choses qui vont être des hésitations, des interjections, des onomatopées, des silences, finalement.
Complètement.
C'est une telle mécanique de précision, une telle horlogerie, que le moindre changement de timing dont tu parlais, finalement, impacte. Et même si dans le public, évidemment, on ne le ressent pas, on ne le conscientise pas en tout cas, mais vous, en tant qu'interprète, vous pouvez vous en rendre compte. Et alors, pour reprendre un petit peu le fil chronologique, tu disais que tu avais suivi tes cours au Canada et que tu avais encore un pied là-bas. Finalement, justement, et si c'est une expérience qui t'a plu, qu'est-ce qui a fait que tu as fait le chemin inverse et que tu es revenu en France pour t'implanter en France et y travailler?
Non, très simplement, mon visa a expiré, j'avais pas le choix.
Bon, c'est très prosaïque.
Donc, du coup, je suis rentrée. Et en fait, à ce moment-là, ça faisait 5 ans que j'étais partie, donc que j'ai fait 5 ans en tout au Canada, et je me disais, bon, ça tombe bien, là, ça me fait du bien de rentrer, je vais me donner un an, puis je vais repartir. J'ai fait ma demande de résidence permanente pendant ce temps-là, et quand je suis revenue en France, j'ai commencé les cours de Jean-Laurent Cochet, j'ai découvert une nouvelle méthode, j'ai découvert tout un univers que je ne connaissais pas, donc je suis restée, puis au bout d'un an et demi, j'ai rencontré mon compagnon, et en fait, bah, évidemment, l'amour fait que je suis restée, et mon visa est passé sans moi. Voilà, j'ai une résidence permanente qui a fait sans moi, quoi.
Bon. Et justement, puisque tu disais que une fois que tu avais débuté, commencé à prendre les cours au Canada, c'était finalement ça qui s'était imposé, qui avait été une révélation pour toi. Est-ce que finalement, j'allais parler d'acculturation, mais presque inversée dans ce pays qui te les tient à la base, avec une culture théâtrale et un apprentissage théâtral qui était différent, est-ce que justement ce choc culturel entre guillemets a été difficile pour toi au départ?
Quand j'étais là-bas?
Quand tu es revenu en France.
Ah, quand je suis revenu en France.
Justement,
oui.
Puisque tu disais que tu avais baigné dans une culture qui était très nord-américaine et tu es revenu. Donc, finalement, le choc thermique ou culturel s'est plus fait quand tu as pris tes cours de théâtre en France.
En fait, c'est très simple. J'ai une image très claire de mes débuts au cours de Jean-Laurent Cochet. Je me souviens être sur la scène et me présenter. Non, même, ça démarre avant ça. J'ai mis du temps avant d'aller sur la scène parce que chez Jean-Laurent Cochet, c'était un petit peu spécifique la manière dont on devait attendre sur le bord de la scène.
D'accord.
Avec l'espoir de passer, mais parfois on passait pas. On attendait 3 heures debout, puis il parlait, il en décimait quelques-uns et puis on pouvait pas passer.
Il y a presque un côté bizutage.
Ah, c'était... Non, mais il fait ça tout le temps. C'était ça tout le temps.
Ouais, d'accord.
Mais ça, c'était pour aussi un peu travailler. Voilà,
ouais.
C'était formateur. Mais moi, je venais d'une méthode pleine d'amour,
de bienveillance.
De bienveillance, ouais. Où à chaque fin de scène, tout le monde sortait. Il y avait un temps de où on allait aux toilettes et tout le monde était là, genre bravo, ta scène, c'était incroyable ce que tu as fait, nanana. Il y avait une bienveillance incroyable, c'était un cocon. Et donc, moi, j'arrive pleine de cet amour pour les autres, j'irradiais. Et donc je mets du temps avant de passer. Puis en plus, au début, on était dans le Tristan Bernard, immense salle, oui. Et moi j'étais tout devant la scène en me disant je suis devant les comédiens, sauf que Jean-Laurent Cochet se mettait tout derrière. D'accord. Et Jean-Laurent Cochet parlait très très bas parce qu'il avait ce truc de plus il parlait bas, plus on devait tous écouter. Et donc au tout début, je me souviens m'être dit mais c'est qui ce vieux pépé qui parle si bas, tu vois, j'entendais rien. Donc je me dis, bon bah, au bout de la deuxième séance, je me dis, oh, bon bah, je vais me rapprocher. Donc je me suis collée presque à lui. Et du coup, je me suis mise à le regarder. J'ai compris très vite les règles à respecter dans son cours. Parce que j'ai un côté un peu très bonne élève, très studieuse. Donc j'ai compris ce qu'il attendait de moi. Et quand je suis passée les premières fois, donc c'est ça ma première fois, c'est que j'étais vraiment, j'ai vécu au Canada, je voudrais jouer en anglais, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Et il était très gentil, je me souviens, vraiment qu'il me regardait avec beaucoup de « Ah, c'est bien » et tout. Et quand je suis descendue, plein de gens sont venus me voir en me disant « Fais attention. Fais attention parce que ici, c'est pas comme là-bas, c'est très compétitif. Fais attention parce que tu vas voir. » Et ils m'ont mis dans une espèce d'ambiance de genre « Oula, il faut que je fasse attention aux autres, il y a de la compète, de l'ego, il y avait des trucs hyper bizarres. » Ils m'ont prévenu de « J'allais me faire défoncer, en fait. » Et puis j'ai commencé avec lui, mais vu que j'avais une très bonne écoute et que j'étais vraiment extrêmement intéressée par tout ce qu'il racontait, parce que c'était un
génie, tout, oui.
J'absorbais tout et je me suis mise à... J'ai été en prépa littéraire, le temps que j'étais chez lui, j'étais en prépa littéraire, j'ai jamais autant lu de ma vie. Il m'a donné un amour de la culture française, des auteurs français incroyables, et ça je l'en remercierai toujours. Et par rapport aux autres, par contre, les relations, ça vraiment j'ai redécouvert malheureusement ce côté français... compète, critique, pas sympa. Et, et vraiment, j'ai beaucoup de gens de chez Cochet qui me restent et que j'aime énormément, avec qui je travaille toujours.
D'accord.
Et qui sont vraiment des bons amis. Mais il y avait quand même une ambiance très, très particulière. C'était pas très cool.
Et alors justement, tu parlais de ces différents apprentissages. Enfin, on parlait de tes différents apprentissages d'abord au Canada, puis en France. Quand ça a pris fin, comment se sont déroulés tes premiers pas professionnel dans le théâtre?
Et bah, en fait,
tes premiers cachets pour le théâtre?
Oui, à la fin de. Quand j'ai terminé ma. Enfin, en fait, je suis partie de chez Cochet un peu sur un coup de tête de. Ah, j'ai plus d'imagination, j'arrive plus à avancer, je me sentais un peu tarie.
Donc, t'es pas allée. C'était une formation.
En fait,
tu peux pas aller jusqu'au bout.
On peut s'arrêter quand on veut.
D'accord, ok.
On considère que ce genre d'école, enfin, et puis chez lui, ça peut être 3 ans, mais il y en a qui restent 5 ans, 10 ans.
D'accord.
Il y en a qui sont encore là.
Tant qu'on a envie d'apprendre, ok.
Et il y en a qui passent des mois et qui s'en vont. Moi, j'avais fait un peu plus d'un an chez lui, et puis, voilà. Je sentais que okay, la méthode ne m'allait pas, ça commençait à devenir trop lourd pour moi, donc j'ai arrêté. Et en fait, j'ai commencé des projets tout de suite avec des amis qui m'ont lancé dans des pièces qui démarraient.
C'était des gens que tu avais rencontrés au cours ?
Chez Cochet, voilà, okay. Tout à fait. Et puis à l'extérieur, j'avais une autre pièce. Enfin, j'ai eu plein de petites pièces qui ont démarré à peu près en même temps, donc je me suis mise à travailler très vite. Et c'était super, ça a été très formateur, ça m'a permis d'appliquer des notions que Cochet nous enseignait, que je n'arrivais pas à comprendre et qui m'ont permis de vraiment les sentir,
okay.
Comme vraiment la projection de la voix, voilà, des choses très précises, techniques. Et au bout d'un an, un peu plus d'un an de jeu, je ressentais que j'avais ce besoin de « ma formation n'est pas finie, pour moi ça peut continuer encore ad vitam aeternam pour les comédiens ». Et j'ai entendu parler d'une école qui s'appelle Le Foyer, qui a été fondée par d'anciens professeurs de chez Cochet,
d'accord.
Qui ont démarré leur école à trois, Jean-Laurent Sylvie, qui est notre metteur en scène, oui. De La Ligne Rose, Axel Blin et Arnaud Denis. Et leur méthode à eux, c'était globalement la technique de Cochet, mais avec un peu plus de relaxation. Voilà, c'était
d'accord.
Plus chill. On pouvait essayer plein d'autres choses. On n'était pas, le répertoire ne s'arrêtait pas à Victor Hugo.
C'était pas uniquement du théâtre classique,
voilà,
ou une approche classique.
C'était même, on pouvait faire du cinéma, on pouvait jouer en anglais. Avec Arnaud Denis, j'ai pu jouer des scènes en anglais, j'ai pu vraiment me relibérer ma folie, mon imagination, l'enfant en moi. Et donc, du coup, je suis retournée en école un peu avec eux.
Okay.
Et à côté de ça, j'avais toujours des petites pièces, mais qui n'étaient pas forcément payées, mais voilà, j'étais un peu tout le temps...
C'est ça également qui t'a permis de t'implanter finalement dans le secteur du théâtre professionnel, et également de gagner en visibilité, de te faire un nom.
Ouais, complètement. Et puis j'ai eu de la chance parce que j'ai pu faire pas mal de publicité.
Okay.
ce qui m'a permis de m'essayer beaucoup au casting, parce que j'ai quand même l'objectif toujours d'aller vers l'écran, de faire de la série, de faire des films.
Ouais.
Donc, qui était à la base mon objectif principal. En fait, le théâtre, moi, c'était pas forcément ça. Mais ça s'est fait comme ça. J'ai vraiment eu ce réseau-là et ça a super bien fonctionné. Donc, j'ai pu avoir tous ces projets. Et donc voilà, donc j'ai fait des castings, j'ai fait un peu de figures.
Il y a ce côté crash test dans les publicités.
Ouais, complètement. Moi j'adore parce que il y a pas de. En fait, on s'en fiche, il y a pas de
d'enjeu
exactement. Ouais. Donc c'est vraiment le meilleur exercice pour découvrir, essayer. On s'en fiche, tout va bien. Puis si ça fonctionne, super, tant mieux. C'est encore une fois un bel exercice de tournage et de devoir être efficace dans un temps réduit. Donc moi j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment un top pour démarrer. Et puis les filles de la ligne rouge, je les ai rencontrées au foyer.
D'accord.
À un moment où je commençais à vouloir avoir envie d'écrire et je commençais à être un peu frustrée par les rôles qui m'étaient proposés, parce que je trouve que malheureusement dans le répertoire, du coup je le réduis au français parce que je connais pas suffisamment pour les autres, on est quand même très faire valoir des hommes dans les comédies surtout. Et les rôles dramatiques, j'en avais un peu j'en avais marre de pleurer, de chouiner, d'être la duchesse et pleurer. Donc du coup, j'ai proposé à Bérénice de, ok, on s'est créé des rôles féminins forts, des personnages hauts en couleur, larges et qui soient un peu fous dans la comédie. Et puisque c'était ça, c'est vraiment ce que moi j'adore la comédie plus que tout. Et donc du coup, on a commencé à écrire comme ça.
Ok. J'avais justement une question. Tu prends de l'avance sur une prochaine question que j'avais, mais ça tombe bien, on se recoupe et c'est la perception que j'avais de la pièce. Avant cela, j'avais vu que tu jouais dans une adaptation du livre American Psycho,
oui.
C'est bien ça,
ouais.
De Bret Easton Ellis.
Oui,
alors on parlait de culture nord-américaine et états-unienne tout à l'heure. Là, c'est très spécifique puisque c'est une critique quand même acerbe à la fois des années 90 et du capitalisme. Et le roman a quand même un ton et même une structure assez particulier. Et d'ailleurs, ça avait déjà, lorsque ça avait été adapté au cinéma, déjà, il s'était un petit peu cassé les dents là-dessus. Toi, il me semble que tu étais qu'actrice, mais je me demandais comment cette adaptation avait vu le jour et surtout toi, comment tu étais arrivée sur ce projet.
Alors, le projet existait déjà avant que je sois dedans. Il y avait un renouvellement de certaines comédiennes qui ne pouvaient plus le faire. Donc, du coup, il y a eu une nouvelle batch de casting. Et ça a été mise en scène par Stéphane Anière. Et cette pièce, effectivement, elle s'appelle Constance, celle qui a adapté le récit, et elle a vraiment pris un parti de créer des voix pour que ce soit compréhensible. Et c'était une idée assez bonne de créer trois voix de femmes qui représentent un peu trois pans des femmes que lui il a dans sa tête.
D'accord.
La femme un peu vulgaire, la femme bosseuse très autoritaire, et au milieu la femme du foyer très chaleureuse et tout, la maman un peu.
Et est-ce que c'était en référence aux trois sorcières de Macbeth?
Ouais,
ou non,
exactement, dans ce genre de, exactement.
D'accord.
Dans
c'est
genre
le cœur grec,
ouais,
un peu,
voilà,
auquel
le cœur grec, tout à fait. Et moi j'étais la working woman un peu autoritaire et tout. Et c'était super intéressant. C'était vraiment, on était nombreux. C'était une des, ouais, c'est bah, pareil, c'est celle que j'ai commencé au moment de Cochet, vers la fin de chez Cochet. Et celle-là, on était à la base, ils étaient une vingtaine, ils étaient 19 parce qu'il y avait des moments dansés, des moments de scénographie incroyables.
Ouais.
Et puis ça a été réduit à 12 ou 13, mais on était énormément.
Il faut quand même une scène d'une certaine taille en plus,
parce que
tu ne peux pas jouer ça dans des petits théâtres, notamment. Enfin, on y reviendra plus tard, mais la scène du théâtre Le Pic, que vous déjà vous investissez bien et vous êtes que trois sur scène, par le biais des décors, ça prend de. Ça prend tout de même de la place.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir à 21h sur Radio Campus Paris.
Tu parlais de la ligne rose, qui est une aventure qui t'occupe encore aujourd'hui. Justement, tu parlais de comment avec tes consoeurs et co-autrices, alors il faut les citer, Bérénice Bocara et Sana Puy.
Tout à fait.
Ok, merci. Donc oui, puisqu'il faut les citer, puisque c'est, comme je le disais, une pièce que vous avez écrite à six mains, que vous jouez également toutes les trois sur scène, puisqu'il y a quelques rôles masculins, mais en fait, c'est uniquement par le biais de... Tu parlais à l'instant de voix, c'est uniquement des voix off, et vous êtes seul sur scène, en fait.
Tout à fait.
Et justement, tu disais, c'est un... Enfin, c'est une pièce que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques mois, puisque vous la jouez au Théâtre Le Pic depuis
peut-être le début de l'année. Moi,
depuis
c'était à
début
la...
juin. Okay. Depuis, pas début juin, mi-juin.
Ok, moi, c'était fin juillet, début août, que j'ai eu l'occasion dans la torpeur de l'été. Et justement, c'est très intéressant puisque tu disais que c'est un sujet de comédie, c'est un sujet de comédie presque classique dans le déroulé. Mm-hmm. La mise en scène ne l'est pas. Mm. C'est une histoire assez originale que vous avez romancée, celle du Téléphone Rose. Enfin, y a beaucoup de choses, beaucoup de couches. Je me demandais comment tout ça s'était articulé. Comment vous y étiez venu?
Alors,
on a du temps, hein, t'inquiète pas.
Oui, c'est clair. énorme brainstorming qui nous a pris une bonne année.
Donc, tu disais Bérénice et Sana, tu les avais rencontrés au cours
au foyer. Exactement.
Et très rapidement, vous avez su que vous vouliez travailler ensemble.
Oui, non. En fait, Bérénice et moi, on jouait à ce moment-là, au tout début de l'aventure. Bérénice et moi, on était sur Louison de Musset.
D'accord.
Et c'était justement ce moment où, dans la même période de temps, je jouais sur 3 pièces. Et c'était toujours des rôles de duchesse. Et c'était toujours des rôles de femmes épleurées, lamentes, nanana. Et j'en pouvais plus. Mmh. Et donc, je me souviens très bien avoir dit à Bérénice un jour où on se baladait, lui dire, là, j'ai vraiment envie d'écrire. C'est plus possible. Là, j'ai envie d'écrire des rôles forts de femmes dans la comédie, des trucs drôles.
Des choses qu'on ne vous proposait pas.
Des choses qu'on ne proposait pas. Et choses qui n'existent
qui
pas.
Qui n'existent pas, ouais. Il y a cette phrase de Toni Morrison que j'aime beaucoup qui dit, j'ai écrit mon premier roman parce que j'avais envie de le lire.
Ouais, exactement. Moi,
c'est une bonne motivation de parler.
Complètement. Je sais que tout le long de l'écriture, j'avais un peu cette petite voix qui me disait, ah, j'espère que des filles le liront et auront envie de le travailler en école.
Bien sûr.
Et que ça leur donne, que ça les fasse rire, qu'elles aient envie de travailler ces rôles. Et donc, du coup, donc elle me dit, ah, bah moi aussi, ça me tente d'écrire, pourquoi pas. Donc, on commence à réfléchir à toutes les deux. Et moi, je me souviens avoir parlé du téléphone rose et elle avait l'idée des demoiselles du téléphone. C'était vraiment chacune des thèmes, je sais pas, ça c'était dans l'air, quoi. Et on a commencé donc à réfléchir à ça. Très vite, on a su qu'on voulait être... On a fait par... comment dire, pour que ce soit viable comme projet, on s'est dit, OK, maximum 3 personnages, ça va être 3 femmes. La troisième, il faut qu'elle soit électron libre et qu'elle elle chahute les deux autres. Mmh. Il faut que ce soit celle qui déclenche, l'incident déclencheur. Et donc, du coup, on voulait quelqu'un avec de la gouaille. En fait, Sana, toutes les deux, de chacune de notre côté, on a pensé
à elle.
C'était
l'évidence.
C'était l'évidence, parce qu'on on l'avait juste connue en cours. Moi, j'avais passé des scènes avec elle, Bérénice même pas. Mais elle avait ce truc, cette voix qui est très spécifique dans ce tout petit corps. Enfin, c'est exactement ce qu'on cherchait.
Il y a un petit cherchait. Côté... Arletty. Oui, voilà, j'allais dire Titi Parisien. Mais... Ouais, en plus, c'est très intéressant parce que je parlais de théâtre classique. Et là, finalement, alors en tout cas au début, dans la relation entre son personnage et les deux autres, il y a ce côté... c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans le théâtre classique, le côté maître et valet, ou en tout cas haute classe, basse classe, et c'est vraiment mépris de classe, que snob que les autres vont avoir.
Et à la fois une envie de vivre, de se battre, bat. Et en fait, c'est ce qui fait qu'elle amène Marthe à être là, genre, ah ouais, d'accord, moi aussi j'ai envie de me battre. Mais effectivement, c'est vraiment le truc des classes. Et c'est tout à fait ça.
Et donc, à partir du moment où donc, vous saviez que vous alliez faire la pièce avec Sana, vous avez décidé de l'écrire.
On brainstormait. Pareil, Sana, elle était partante pour écrire avec nous. Je crois que même à la base, on se disait, bon, on va écrire à deux. Et puis en fait, elle a dit, moi aussi, je veux bien écrire. Donc, OK, vas-y, on y va à trois. Allons-y.
Soyons fous.
Exactement. Et puis, donc, on commence, on brainstorm. Et puis, j'ai eu cette image en m'endormant de j'ai vu la scène et j'ai vu le. C'est des demoiselles, parce qu'à ce moment-là, on avait fait suffisamment de recherches pour avoir l'idée de base que je vais te dire juste après. C'est des demoiselles qui vont créer le téléphone rose et qui vont obtenir plus de cadeaux et utiliser les abonnés pour se fournir en gros cadeaux. Parce que le fait qui existe réellement, c'est que ces demoiselles du téléphone, elles avaient des abonnés majoritairement masculins. Il n'y avait pas de femmes qui avaient des téléphones à cette époque-là, c'était des hommes d'entreprise. Et elles se faisaient quand même assez mal parler, parce que c'était très compliqué comme métier, d'accord. Vu qu'elles étaient... le fait d'avoir quelqu'un qui te dit « je voudrais joindre tel numéro », et puis cette personne, il faut qu'elle branche, il faut que ça branche, il faut que si c'est un autre central, il faut brancher à l'autre central. Enfin, tout était tellement long.
Ouais, c'était un métier technique et même physique.
Horrible.
C'est
et
ce que
très
vous
physique.
Présentez bien dans la pièce.
Très physique. Et encore, elles avaient des poids pour... elles étaient harnachées à des poids pour les casques. Enfin, nous, on a réduit au minimum possible, mais c'était l'enfer. Et il fallait qu'elle soit demoiselle, il ne fallait pas qu'elle soit mariée, il fallait qu'elle soit complètement disponible. Et les abonnés, quand ça se passait bien, vu que justement le reste du temps c'était compliqué, ils leur offraient des cadeaux. Mmh. Ils étaient vraiment genre, merci, vous avez été adorable, donc je vais vous faire envoyer une boîte de chocolat, je vais vous faire envoyer des fleurs. Et parfois, il y avait même, bah, moi, écoutez, je travaille avec telle boîte qui fait des manteaux. Allez à telle adresse, je vous ferai un manteau sur mesure pour vous. Voilà, vous pourrez récupérer votre manteau. Donc, elles avaient des cadeaux comme ça. Donc, du coup, on s'est dit, OK, bah, poussons le curseur.
Ouais.
Et elles vont exploiter ça. Elles vont se dire, mais on veut des plus gros cadeaux et on peut avoir des énormes cadeaux grâce à ça, en faisant des choses un peu cochonnes. Mais, parce qu'en plus, les hommes, c'était très érotique, vu d'écouter la voix de la femme comme ça, sans la
voir.
Oui,
bien sûr, il y avait incroyable. Cette abstraction qui...
Complètement. Ouais. Et il y avait des rendez-vous amoureux qui étaient faits comme ça. Mmh. Et un homme pouvait dire, ben voilà, je serai à tel endroit, sur la place des Vosges, avec une petite rose à la boutonnière. Voilà, vous pourrez me rencontrer si vous voulez. Puis les femmes venaient, elles les voyaient, oh non, bon, ok, elle s'en va. Puis finalement, et il y a un jour, un monsieur qui est venu nous voir en nous disant, mes grands-parents se sont rencontrés comme ça.
Ouais.
Donc c'est trop bien, c'est hyper beau.
Mais oui, oui, et finalement, enfin, des décennies après, maintenant il y a Tinder, avant ça il y avait le Minitel Rose, finalement c'est toujours la technique au service des rencontres. Et ce qui est très intéressant, en fait, tu parlais de ce sujet qui vous était venu, tu disais les demoiselles du téléphone, il me semble qu'il y avait une série télévisée qui avait été faite il y a quelques années, et finalement, il me semble que c'était une série espagnole. Alors,
oui,
je ne sais plus si c'était les demoiselles du téléphone.
Si, c'est les demoiselles du téléphone. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que, cocasse, c'est qu'on a commencé à écrire. Et je dirais, 5 mois après, la série est sortie. Et on était là, oh, non, c'est pas vrai, ils nous ont pris notre thème, c'est pas possible, comment on va faire? Et donc, on était là à la regarder, à se dire, oh là là, oh là là. Puis en fait, c'est pas du tout la même chose. Il y a plein d'anachronismes en plus, que moi, j'aime pas particulièrement. Donc en fait, on s'est dit, ok, non, c'est bon, ça va.
Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Et il y a également une autre pièce qui était jouée récemment qui s'appelle Les Demoiselles, qui était jouée au Théâtre de la Boussole.
Oui.
Et en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, quand j'ai vu d'abord votre pièce et je suis allé voir Les Demoiselles ensuite, et c'est une thématique assez proche, même si ça se passe dans les années 50, donc pas comme vous.
Oui.
Et en fait, c'est une pièce qui n'a rien à voir, puisqu'en plus, c'est une pièce qui est, pour, je ne sais pas si tu l'as vue.
Non, mais j'ai lu le...
Pour
le
moitié chantée. Et en fait, tu vois, que ce soit à travers ça ou à travers la série espagnole dont on parlait, finalement... ce qui est intéressant et peut-être rassurant en un sens, c'est que sur un même argument, il y a des choses très différentes qui peuvent être faites. Et justement, c'est aussi une question que je me posais. Est-ce que ça correspond aussi, c'est parce qu'on est dans un moment où finalement on change de regard, peut-être sur ces femmes-là où pendant longtemps on les a considérées, soit c'était des métiers, on va dire, où c'était simplement des petites mains, où c'était des métiers assez mineurs, et que finalement on se rend compte que derrière ça il y avait cette solidarité. Aujourd'hui on parlerait de sororité entre elles, presque d'empowerment, comme on dit en bon français, que vous mettez en avant dans la série. Peut-être c'est... Je me demandais, moi, si c'était ça, cet intérêt qu'il pouvait y avoir à revisiter aussi cette histoire-là.
Oui, complètement. Et en plus, je pense que nous, on a longtemps cherché dans quelles années on allait les situer.
Oui.
Parce qu'elles ont existé encore jusque dans les années 70-80. Je pense que les derniers centraux ont fermé dans ces années-là. Et en fait, 40-50, on avait hésité. Et finalement, heureusement qu'on ne l'a pas fait. Parce
vous situez ça plutôt...
Nous, on est 1928. On est entre années folles.
Voilà,
on est vraiment dans les années folles.
Parce que, comment dire, une ambiance que vous recréez bien, d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Parce qu'on parlait de jazz tout à l'heure, avec les costumes.
Oui, on a des super... On a une super équipe qui a fait vraiment un magnifique spectacle autour de nous. Et en fait, on a aussi exploité les années folles parce qu'il y a, pendant cette période d'entre-deux-guerres, des choses très intéressantes pour les femmes parce qu'il y a une liberté, il y a un souffle d'énergie, comme on le sait. Il y a vraiment cette envie d'être libre et indépendant, alors que l'après-guerre, c'est moins fun. Nous, on trouvait que ça devenait très, très vite plus dur.
D'accord.
Et puis vraiment, avec 40-50, avec la montée de... Tu vois, ne serait-ce que la montée du nazisme et tout, moi, j'aurais pas pu exploiter l'allemand comme je le fais dans les années folles.
Avec, avec le potentiel comique
complètement.
Bien sûr.
Complètement. Et puis, en plus, au tout début, dans les premières idées qu'on avait, ce qu'on aimait bien, c'est qu'on s'était dit... elles reçoivent les cadeaux au bœuf sur le toit, parce qu'elles ne veulent pas les recevoir à l'appartement, donc elles se les font livrer au bœuf sur le toit, qui est un bar phare de ces années-là. Complètement. Et on s'était dit, OK, elles ne pourront pas y aller en tant que femmes, donc elles vont se travestir, parce qu'à cette époque-là, les femmes se travestissaient beaucoup. Donc on s'était dit, OK, elles vont se travestir en hommes. Et puis on avait beaucoup plus de conversations, et dont des conversations un peu plus homosexuelles, parce que pareil, à cette époque-là, c'était le début de la liberté, enfin il y avait une vraie vague de liberté dans tous les domaines pour les femmes. Et à côté de ça, ce qu'on trouvait génial, c'est un père peut faire virer sa fille du jour au lendemain, elle reste demoiselle, elle signe presque un contrat pour dire qu'elles ne peuvent pas se marier, elles n'ont pas le droit, sinon elles perdent leur emploi. elles sont soumises à des règles. Le patriarcat est énorme. Mmh. Donc, cette
ambivalence, cette dualité battre, entre les deux qui ont des envies, de la période qui vous intéressait. Et on le sait, au théâtre, il peut se passer plusieurs étapes et ça peut être un parcours semé d'embûches entre le moment où, surtout dans votre cas, on décide de l'écrire et le moment où on arrive à monter véritablement la pièce. Donc, comment ça s'est fait, la partie un peu plus logistique ? Tu parlais tout à l'heure de votre travail avec votre metteur en scène. Oui. Comment ça s'est fait suite de la
Et ben donc voilà, brainstorming pendant un an, et puis au bout d'un an j'ai rencontré Jean Laurent et je lui ai dit voilà, on savait tout de suite qu'on voulait travailler avec lui parce que on savait aussi qu'on voulait des décors. On voulait une
Oui, il y a un dispositif un peu complexe, y reviendra plus tard dans la mise en scène.
Et Jean Laurent Sylvie c'est un metteur en scène qui fait des pièces à l'ancienne, avec des beaux décors et avec des super mises en scène. Vraiment, elles sont magnifiques, ces mises en scène. Et nous, on voulait vraiment ça. Donc, on savait qu'on voulait travailler avec lui. Et donc, très rapidement, en fait, moi, je lui ai dit, écoute, voilà, on a ça comme projet. On est tel. Et puis, on aimerait bien te soumettre l'idée. Montrez-moi. Je ne sais plus, je pense qu'à l'époque, c'était le premier acte. Il nous avait demandé le premier acte. Et puis, je vous ferai des retours. Donc, ça nous a fixé des objectifs. Donc, je crois que, oui, au bout de un an et demi, on avait ce premier acte. Il nous a dit, OK, continuez d'écrire. Et on s'est dit, OK, je crois que c'est bon. Je crois qu'il veut bien de nous.
Ça vous a donné, ça vous a encouragé.
Ouais, complètement. Donc, on écrit toute la pièce. Donc, on va dire, je pense qu'en tout, ça nous a pris 3 ans. Donc, on va dire que c'est avec là-dedans le Covid en plus. Donc, il me semble qu'au bout de 2 ans, on avait la pièce finale, même peut-être un petit peu moins. On lui soumet la première version et il nous dit, OK, il y a tout. Mais il faut tout réécrire. Donc là, grosse panique. Nous, c'était notre première pièce. On n'avait jamais écrit de notre vie. Donc effectivement, il y avait plein de choses qui manquaient. Mmh. Donc il nous dit, voilà, il faut tel obstacle, tel truc. Là, il n'y a pas assez de ça, il n'y a pas assez de ça. Là, il faut que ça. On était là genre, OK, d'accord. Donc on s'est mis une pression de folle de fou. Et en un mois, je crois, on a tout réécrit.
D'accord.
En gardant le fil, évidemment. Et comme ça, il nous avait prévenu parce que, ça aussi, c'était une des choses qui faisait qu'on voulait travailler avec lui, c'est que lui retravaille avec les auteurs.
D'accord.
Et on savait ça. Et moi, je savais que c'était quelque chose que je me disais, ça va nous aider, c'est sûr. Donc, il nous avait prévenu là, vous avez une première version, mais dites-vous qu'il va y en avoir 10.
D'accord.
Donc, d'accord.
Bon. Et donc, quand tu dis travailler avec les auteurs, justement, c'est
la réécriture.
C'est-à-dire que pour la première fois, vous la montez, il vous accompagne, il y a des réécritures qui se font, même en amont de ça.
Complètement en amont.
Lui,
en
fait, s'investit au point de.
Oui. On n'a rien monté tant que le texte n'était pas validé.
Ok.
On a vraiment. Donc, on est à la 6e version, je pense. Au Lucernaire, on a joué la 5e. Là, on a remodifié depuis. Le texte final a fait que ensuite on a commencé à parler de décors et on a fait une lecture au Lucernaire. On a eu les décors, on a eu la production. Donc voilà, ça s'est accéléré.
Le premier théâtre dans lequel vous l'avez représenté, c'était le Lucernaire.
Oui.
D'accord. Que vous avez joué pendant.
On a joué pendant 2 mois l'année dernière, donc en 2022, de septembre à octobre.
2021.
2021, pardon.
Puisqu'on est en... Ok, c'est juste pour avoir la chronologie en tête. Et donc là, récemment, vous le proposiez vous l'avez repris au théâtre Le Pic. Oui. Et justement, puisque tu disais, en fait, on parlait du dispositif assez ambitieux qu'il peut y avoir. En fait, il me semble 3 ou 4 décors.
Il y a trois ambiances. 3
décors.
Il y a le bœuf, les PTT et la chambre.
D'accord. Et en fait, l'ensemble des décors, à la radio, c'est encore une fois, sur l'abstraction, c'est pas facile de se représenter, mais en fait, l'ensemble des décors sont présents sur scène et par un jeu
de panneaux qui s'ouvrent et qui se ferment, on ouvre les pièces.
Voilà. Et justement, ça, de passer d'un théâtre à l'autre avec des scènes de tailles parfois différentes, des configurations différentes, et parfois, j'ai notamment la salle du Lucernaire de mémoire en tête qui n'est pas tout à fait faite comme le théâtre Le Pic. Est-ce que justement, à chaque fois qu'on change de théâtre, on repart peut-être pas de zéro, mais est-ce que c'est une difficulté supplémentaire aussi ?
Oui, alors, sachant qu'effectivement, nous, on était au Paradis, au Lucernaire. Donc, on était dans
la salle la plus haute.
Oui, et qui est très
la plus
haute.
Ouais.
Et le plateau est très grand. Ouais. Et en fait, le décor a été fait sur mesure. Il est vraiment... Et tout rentrait parfaitement.
D'accord, ok.
Mais, effectivement, il n'y avait pas de profondeur. On était vraiment... Les gens étaient chez nous, quoi. Ils étaient dans le bœuf, dans la chambre et dans les PTT.
C'est vrai que, oui, selon les théâtres, ça varie. Ce qui n'est pas le cas au Théâtre Le Pic, par exemple.
Non, pas du tout. Et au Théâtre Le Pic, justement, il y a une belle respiration là, on prend l'ampleur. Et au début, effectivement, avant de commencer au Le Pic, il y a eu une discussion sur est-ce qu'on garde tous les panneaux, est-ce qu'on n'enlèverait pas tel mur. Et finalement, on a décidé de tout garder, notre productrice et puis Stéphane aussi, le directeur du théâtre. Et en fait, tout marche, ça marche hyper bien, c'est très beau, je suis super contente.
C'est amusant parce que justement, quand j'étais allé vous voir sur scène, tu avais pris la parole à la fin et tu disais en fait c'était... je ne sais plus ce que tu avais dit exactement, mais tu parlais d'un théâtre art déco et c'est vrai que finalement, le théâtre Le Pic, ouais. Il est... dans son jus, on pourrait le dire comme ça. Et en fait, il y a un côté presque désuet, ou en tout cas suranné les sièges, avec les. Et je dis surtout génial. Pas ça pour dire du mal du théâtre Le Pic, mais finalement, ça sert le propos et on est presque transporté davantage que si on était dans un théâtre avec des fauteuils et un équipement dernier cri.
Surtout que, en fait, le Pic, ce qui est un peu spécifique, c'est que il a été refait là en 2020.
Ouais.
Il n'avait pas cette allure-là il y a quelques années.
D'accord.
Il était d'ailleurs réputé parce que les sièges devant, il y avait des canapés où en fait c'était un peu une salle de cinéma à l'arrache. Il y avait des gros canapés dans lesquels les gens s'endormaient pendant certaines pièces. Enfin, c'était un peu un endroit de si tu veux aller dormir, tu peux aller dormir les gros canapés.
C'était connu pour
voilà. Et c'était une autre ambiance. Ouais. Et en fait, moi je l'avais pas revu depuis. Et quand on est entré, enfin, ce style, ouais, Gatsby art déco qui est hyper beau et les lumières qui est les lumières avec l'arche lumineuse, c'est vraiment magnifique. Et effectivement, ça crée. On rentre dans un autre univers. Et c'est trop bien.
Ouais, ouais. Et justement, oui. En plus, ce qui est parce que le théâtre Le Pic, donc la rue Le Pic, c'est alors au niveau de l'arrondissement, je suis plus sûr, mais c'est le 18e. Enfin, on n'est pas très loin de. À la fois, on n'est pas très loin. On est dans Montmartre. Mm-hmm. On n'est pas très loin de Pigalle. Donc, on parlait tout à l'heure du côté de ce Paris un peu. Enfin, de ce Paris, j'allais dire désolé, mais qui dans le passé. Donc, c'est carrément révolu. Et avec le côté titi parisien, un peu l'image d'Épinal qu'on peut avoir de ces années-là. Donc, finalement, je trouvais que ça apportait au charme de la pièce, qu'on était presque transporté. Ouais. Et on sort, on voit les moulins de Pigalle, de Montmartre.
On dit dedans,
oui,
hein.
D'accord, ouais. Oui, c'est ça. On y est. Et donc, à partir du moment où vous avez, tu parlais du Lucernaire, à partir du moment où vous avez commencé à la présenter assez rapidement, le succès a été au rendez-vous puisque vous avez été prolongé plusieurs fois. Après, vous avez changé de théâtre, mais la belle aventure de la pièce, enfin de la ligne rose, c'est poursuivi. Donc vous, ça vous a aussi donné, ça vous a donné des gages, ça vous a donné confiance,
une légitimité. Oui, voilà, oui, totalement, ouais. Totalement. Et oui, c'est vrai que pour une première pièce, c'est assez impressionnant et vraiment, enfin, il y a beaucoup de travail, donc le travail paye, j'ai envie de dire. Mais
c'est rassurant.
Voilà, c'est clair, mais il y a quand même un côté genre waouh, le Lucernaire. Moi, je sais que ça faisait partie des théâtres où quand j'étais encore chez Cochet, je me disais j'espère un jour jouer ici. Vraiment, le jour où je joue là, c'est ça y est, j'ai atteint un degré de j'ai réussi quoi. Et là, de jouer là pour ma première pièce que j'ai écrite, je me dis ok, c'est cool, super. Et là, ensuite, on a été pris en charge par les Matryoshka,
oui.
Qui sont Salomé Lelouch, avec Salomé Lelouch. Il ne faut pas que je... Attends, parce que je ne vais peut-être pas m'emballer dans les... Je reprends ma phrase.
Vas-y.
Comme on a été pris en charge par les Matryoshka, c'est elles qui nous ont permis d'être au Le Pic. Okay. Et ça aussi, c'est un vrai gage de confiance et de... OK, notre travail est apprécié.
Oui,
et on
de
nous...
bénéficier de voilà. Cet accompagnement. OK. Et même si cette aventure n'est pas terminée, est-ce que, faire plus simple que ça, quels sont tes projets actuels, que ce soit avec la ligne rose, est-ce que vous comptez partir en tournée avec, la présenter à un autre public?
En fait, là, donc, l'objectif, c'est Avignon l'année prochaine.
Super.
Et puis, de là, on aimerait vendre des dates de tournée. Ça aussi, le décor, il a été pensé pour de la tournée,
okay.
Pour pouvoir être dans des belles grandes salles. Et à côté de ça, toutes les trois, on recommence à écrire. On a une nouvelle idée de pièce, parce que vraiment, cet exercice d'écriture, il a été tellement merveilleux et fluide et sans jamais d'accrochage qu'on a envie de recommencer. Donc là, je leur ai pitché une nouvelle branche d'idées. Donc on lit beaucoup, on se renseigne énormément.
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? C'est confidentiel.
Non. C'est confidentiel. C'est encore sur l'histoire des femmes.
Il y a toujours un aspect
historique. C'est encore les femmes, okay, c'est encore historique. Et
c'est dans un univers différent.
Oui,
ça ne reprend pas les mêmes personnages.
Complètement.
Puisque d'accord. D'ailleurs, c'est une histoire close, donc
il n'y
a pas vraiment de.
Et à côté de ça, moi, j'ai un autre projet très féminin où on est 6 filles et ça s'appelle Table Rase et ce sera joué à la Manufacture des Abbesses en novembre et en décembre.
Super.
Donc en fait, si tout va bien et que la ligne rose continue, je ferai les deux
en parallèle.
Ça, j'aime beaucoup ce challenge-là.
Mais la manufacture des abeilles, c'est pas très loin du théâtre
Le
Pic.
Justement,
donc
c'est
ça
génial,
reste dans le
génial.
Quartier.
C'est vraiment 5 minutes et je suis de nouveau dans le théâtre.
Et là, en plus, si j'ai bien cette salle-là en tête, on se rapproche davantage du Lucernaire dans le sens où tu as quasiment tu as le public à tes pieds.
Oui,
à,
exactement. Ouais,
30 centimètres
ouais,
de toi.
C'est ça, tout à fait.
Donc,
tout à fait.
Et tu disais, le nom de ce projet, c'est Table Rase. Alors,
Table
si
Rase,
c'est un
ouais.
peu plus avancé, est-ce que tu peux nous
oui,
en dire...
bien sûr. Alors, c'est un...
Excuse-moi, tu ouais. interviens dessus en tant que...
En tant que comédienne.
Uniquement, tu
ouais,
t'as pas participé à l'écriture.
Non, il a été écrit par des Québécoises.
D'accord.
Et elles sont un
On
petit
y revient,
paquet.
La boucle est bouclée.
Tout à fait, exactement. Et en fait, c'est Charlotte Monnier qui est à l'origine de ce projet, qui est également une comédienne que j'ai de chez Cochet. On est tout un petit cercle
D'accord.
de Cochetiennes. Et en fait, elle a récupéré le texte parce qu'elle en est tombée amoureuse. Elle l'a adapté en français. Et donc, toutes les comédiennes qui sont sur le projet sont des comédiennes françaises. Et nous, ce projet, eh ben, en fait, c'est incroyable parce qu'on le tient à peu près depuis le même moment que La Ligne Rose avait démarré l'écriture. Ça fait 4 ans que, presque, qu'on essaye de le jouer. Mm-hmm. Mais il y a eu le Covid. Toutes nos dates ont été annulées. Donc, c'était horrible.
Et plus on est nombreux ou nombreuses,
oui,
plus c'est compliqué
quoi.
À monter. Ouais.
Et donc, là, finalement,
et là,
ça,
vous y arrivez.
Ça y est, on y est, on va le jouer. Et ça raconte l'histoire. Alors, on peut pas... Je ne peux pas te dire exactement ce qu'il y a dedans parce que c'est très... Il ne faut pas spoiler.
Ouais,
mais
c'est mieux d'être surpris.
Complètement. Ouais. C'est un huis clos avec des amis d'enfance qui se retrouvent
okay.
après des années dans le chalet d'une des six pour faire table rase du passé,
mm-hmm.
pour régler quelque chose de très spécifique ce soir-là et voilà, pour préparer l'avenir. Et elles vont, voilà, elles vont faire table rase de tout ce qui leur est arrivé.
Et c'est prometteur. Et ça, justement, ça se situe également dans un registre comique ou c'est davantage...
Pas du tout.
Pas
c'est
du tout,
drama. Drama,
non,
drama.
Avec,
avec le
décor que tu plantes,
ouais,
ça peut dégénérer en pure comédie.
Ouais, complètement. Mais
et
non.
C'est bien parce que ça te permet de jouer
complètement,
d'autres...
Complètement. Et puis en plus, là, c'est...
Sans pour autant revenir à des rôles de duchesse.
Non, exactement. Et surtout que c'est des très beaux rôles parce que c'est vraiment écrit. C'est de l'écriture de plateau qu'elles ont faite, les filles là-bas. Et donc, du coup, tous les personnages se parlent en même temps, ça se répond, c'est très vivant.
Mmh.
Donc, ça donne quelque chose de... ça a été énormément de travail, parce que pour atteindre un level de... on dirait qu'elles improvisent et qu'elles parlent tout le temps les unes sur les autres, mais
oui.
en fait, c'est cette technique de
oui,
fou.
Oui, oui, oui.
Donc, du coup, ouais, c'est un magnifique travail que j'ai pu faire avec ces filles-là. Et c'est toutes des amies très proches, donc j'ai vraiment hâte qu'on le présente.
C'est un projet qui
présente.
Te tient
ouais,
à cœur.
Ouais, ouais.
Et tout à l'heure, tu parlais également tout à l'heure d'apparaître à l'écran ou de mm-hmm. tester de nouvelles choses, notamment devant la caméra. Est-ce que c'est également des projets que tu as en ce moment?
Oui, alors, vu que je n'ai pas de représentation encore d'agent, je n'arrive pas à accéder au casting. Donc,
okay.
c'est pareil, j'ai décidé de me créer mes propres trucs parce que je commence à en avoir marre. Donc, du coup, oui, j'ai deux web-séries dont je suis un peu à l'origine
Super.
Des projets, mais pareil, où je m'associe avec des gens.
Okay.
Parce que ça aussi, c'est vraiment... On n'est que plus fort à plus.
C'est ton mantra.
Ah ouais, c'est incroyable. Vraiment, la force des groupes et surtout de s'associer avec les bonnes personnes qui sont bosseuses et qui veulent y arriver aussi et qui veulent y mettre de l'énergie. Donc, du coup, j'ai deux projets qui sont des web-séries. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, c'est ça, c'est ces deux-là qui sont vraiment majoritaires. Non, il y en a trois. J'arrive plus à me souvenir du
détail. Les web-séries dont tu parles, c'est des choses qui seront visibles à l'horizon 2023?
Oui, j'espère. J'espère, okay. ouais.
Bah forcément, ça prend un peu plus de temps côté
ouais, ouais,
il faut
ouais.
refaire la pré-production, le tournage, la post-production.
Complètement.
Mais très bien, très prometteur. On surveillera ça de très près. Alors, Odile, on arrive malheureusement bientôt au terme de l'émission. Je vais terminer avec la proverbiale question que je pose à chacun et chacune de mes invités, à laquelle tu n'échapperas pas.
Ouais.
Est-ce que tu as une recommandation culturelle, d'une œuvre culturelle que tu souhaiterais partager avec nos
oui.
auditeurs et auditrices?
Alors, je l'ai prise avec moi parce que je la lis en ce moment. C'est pour,
D'accord.
Je la relis. C'est pour ça que c'est très, très dur pour moi de faire un choix comme ça parce que je suis une énorme bouffeuse de bouquins et que j'en lis 5 en même temps, donc je pourrais citer et en plus des sciences et des romans et des trucs, donc je pourrais te citer un truc dans chaque domaine.
Mais l'émission ne dure qu'une heure, on a dit
voilà.
plein de choses, c'est pour ça que je donne qu'un choix possible à mes invités, sinon,
Tout à fait.
Sinon ce serait un marathon.
Vu que je suis en train de le relire, et donc pour moi c'est une vraie preuve de... c'est incroyable, c'est Les Rois Maudits de Maurice Druon,
Très bon
que
choix.
Je considère vraiment, mais j'ai découvert ça grâce à Bérénice, justement, qui m'en a parlé,
merci
qui aime
Bérénice.
Beaucoup l'histoire, merci Bérénice, merci infiniment, parce que c'est mais incroyable, que l'écriture, c'est une série, et c'est tellement, comment dire, en avance sur son temps.
Bien sûr.
Il a écrit, c'est majestueux ce qu'il a écrit, c'est incroyable.
Maurice Druon, ouais.
Ouais.
Qui était le, je sais pas si pour la petite histoire si tu savais, qui était le neveu de Joseph Kessel.
Non.
Et ensemble, ils ont écrit, ils étaient, ça c'est pareil, c'est la minute histoire. En fait, ils étaient tous les deux exilés à Londres pendant. Il me semble que c'était en 1940. En fait, ils avaient répondu à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Et ils ont été tous les deux. Ils ont tous les deux pris. Enfin, fui pour aller à Londres.
Ouais.
Et ensemble, Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon, ils ont écrit ensemble Le Chant des Partisans, qui est devenu le chant de référence des.
Voilà. Bah,
et donc, Maurice Druon, qui était un personnage assez exceptionnel, en plus d'être romancier. Ah ouais. Et en fait, et d'ailleurs, c'est très drôle parce que tu disais, c'est une série. En plus, maintenant, quand on dit série, on pense aux séries télévisées.
Ouais.
Et en fait, Maurice Druon, c'était aussi l'idole littéraire de George Martin, qui a écrit Game of Thrones. Qui est devenu le. Voilà, encore une fois, la boucle est bouclée. Et en fait, Martin disait que lui-même, c'était. Maurice Druon, c'était son idole absolue. Et il disait qu'il lui avait piqué beaucoup de choses.
Mm.
Et c'est vrai que quand tu. Moi, je l'ai lu aussi, et c'est vraiment à lire, puisque ça apporte un regard L'histoire, très éclairant sur la période.
Complètement.
Et on découvre, en fait, plein de choses avec des personnages, et puis les trahisons, les coups bas, les mensonges, les assassinats.
Mais d'un point de vue historique, ce qu'il a fait, c'est incroyable le travail de recherche de tout. En plus, moi, je ne suis pas bonne pour retenir les noms, les dates et tout, mais ça se lit, c'est du petit lait ce qu'il a écrit. C'est incroyable.
Tout à fait.
Et la dramaturgie, elle est géniale parce que justement, le principe série de tu suis un personnage, juste la bonne dose, tu bascules sur un autre, puis ensuite, il te fait revenir, puis ensuite, il te crée un autre personnage qui va aller ailleurs, puis tu vas le suivre aussi, ça te crée des histoires en parallèle, et du coup ça m'étonne pas du tout que Game of Thrones il se soit basé là-dessus, c'est ça. Exactement ça.
Mais c'est ça, et moi je connaissais déjà l'inspiration que ça avait été. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que il y a quelques années, j'étais retombé. Ils ont fait une réédition des Rois Maudits en bouquin, et en fait maintenant quand t'es en librairie, ils sont en librairie avec un fourreau dessus, et c'est carrément marqué l'inspiration, c'est marqué le livre qui a inspiré, ils s'en servent comme d'un argument commercial, parce que Game of Thrones ça parle à tout le monde. Et c'est vrai qu'en fait c'est ça qui est vertigineux, c'est que tu le lis et tu te dis en fait la télévision et Game of Thrones n'a pas inventé grand chose, est déjà dans la littérature.
C'est une belle histoire de France en plus, c'est trop bien.
Tu parlais de l'histoire de France et de la culture française, ça donne déjà un très bon aperçu, et on est replongé dans l'époque. Donc si vous n'avez pas lu Les Rois Maudits, suivez les bons conseils d'Odile et lisez-le. Et il y avait deux adaptations télévisées qui en ont été tirées également. Vous pouvez les regarder également. Odile Blanchet, merci beaucoup.
Merci
d'être venu nous parler de ton riche parcours, de cette très belle pièce que je recommande à tout le monde, La Ligne Rose, dont l'aventure, comme tu disais, n'est pas finie, puisque c'est encore actuellement au théâtre Le Pic, bientôt à Avignon, et bientôt en tournée. Donc que vous soyez à Paris ou ailleurs, vous pourrez, je l'espère, vous pourrez le voir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Très bonne soirée.
Bonne soirée.